Échange, santé et psychologie. Une émission proposée et animée par Béatrice Reiss, psychologue clinicienne.
Chers amis de Mosaïque FM, bonjour et bienvenue dans l'émission Échange, santé et psychologie. Nous continuons aujourd'hui le cycle d'informations concernant le parcours de la personne âgée. Alors, nous avions reçu Véronique Erard, directrice de l'EHPAD Corian Les Rives d'Estérel à Fréjus le 3 octobre dernier, accompagnée d'Anne-Catherine Rigaud, adjointe de direction de HAD, l'HAD, donc c'est l'hospitalisation à domicile Saint-Antoine à Saint-Raphaël. Bonjour Véronique Erard.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous venez à l'antenne avec le docteur Stéphanie Elbez, qui est médecin généraliste et diplômée de médecine du sport. Bonjour, docteur Elbez.
Bonjour.
Alors, donc, je disais à l'instant, donc vous êtes médecin urgentiste au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, en médecine préhospitalière également, avec la capacité de médecine d'urgence. Et actuellement, vous êtes médecin coordonnateur en EHPAD et somaticien au service de psychiatrie au CHI de Fréjus. Alors, Véronique Erard, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage paru aux éditions L'Harmattan en 2016, « Regards croisés sur les pratiques d'accompagnement de la fin de vie », qui comporte de nombreux témoignages d'acteurs de la santé, de patients et de leurs proches. En fait, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, celui des directives anticipées de fin de vie, reprend des points d'information extrêmement importants qui font l'objet de recherches dans votre livre, auquel a d'ailleurs collaboré le docteur Elbez. Alors, Véronique Erard et Stéphanie Elbez, aujourd'hui, nous vous écoutons sur le thème de la fin de vie et sur l'importance de démocratiser ce sujet et de lever le tabou qui entoure la mort.
Bonjour Madame Reiss, nous vous remercions de nous accueillir dans votre émission sur Mosaïque FM. Alors la fin de vie et la mort sont en France un sujet tabou. Dans le cadre d'un master spécialisé à CAGE en management d'établissements de santé à Marseille en 2014-2015, j'ai choisi de faire une enquête sur l'accompagnement de la fin de vie en France et en Suisse. Lors d'une conférence animée par le professeur Leonetti sur les droits des patients, j'ai rencontré le docteur Stéphanie Elbez. Elle était à l'époque médecin urgentiste au CHU de Fréjus et elle s'interrogeait sur la difficulté de prendre en charge des personnes âgées en fin de vie aux urgences.
Voilà, donc bonjour Madame Elbez. Donc suite à la lecture de l'ouvrage de Madame Erard, pouvez-vous nous expliquer la situation des personnes accueillies aux urgences au CHU de Fréjus et les difficultés rencontrées ?
J'ai commencé à travailler en 2007 aux urgences du centre hospitalier de Fréjus. Dans ma pratique quotidienne, j'ai été confrontée maintes fois à l'impasse thérapeutique vis-à-vis des personnes âgées adressées aux urgences et pour lesquelles nous avions plus l'impression d'être maltraitants que soignants. Ma réflexion sur le sujet m'a amenée naturellement à m'intéresser au travail fait en amont de l'arrivée aux urgences par les médecins coordonnateurs d'EHPAD. Pour ce faire, je viens de terminer un DU de médecin coordonnateur à l'Université de Nice. Je pense que la société française a absolument besoin d'évoluer dans son approche sur la fin de vie. La mort doit être démocratisée, expliquée et démystifiée pour le plus grand nombre.
Tout à fait. Il y a ce problème de personnes âgées, mais aussi ce problème d'aborder la mort. Alors pourquoi les personnes âgées sont-elles adressées aux urgences, docteur Elbez ?
Aujourd'hui, faute de formation et d'information, les personnes en fin de vie se retrouvent souvent seules, envoyées aux urgences par les maisons de retraite ou les familles désemparées. Une personne en situation de grande précarité physique a besoin d'être reconnue et de se retrouver dans un cadre familier. Dans un service d'urgence, elle y est anonyme, sans ses repères et son histoire de vie, et elle n'est pas connue du personnel sur place. Pour moi, il s'agit ici d'une forme de maltraitance. La personne âgée déplacée, apeurée, désorientée, se retrouve très perturbée. Les urgences, comme son nom l'indique, ne sont en aucun cas un lieu tranquille, calme et sécurisant et familier, propice à la prise en charge d'une personne âgée. Le personnel des EHPAD a besoin d'être soutenu dans leur accompagnement. Les familles ont besoin d'être informées sur l'accompagnement de fin de vie dès l'entrée en EHPAD.
Oui, pour exemple, pour reprendre ce que dit le docteur Stéphanie Elbez, dans les EHPAD Corian à Fréjus, c'est un sujet qu'on aborde avec les familles dans notre projet d'aide aux aidants qui s'adresse aux proches de nos résidents. Dans les semaines qui suivent l'entrée, on apporte avec eux les directives anticipées, le rôle de la personne de confiance, qui est souvent confondu pour les proches avec celui de la personne à prévenir. On explique en famille que la prise en charge jusqu'au bout de la vie est faite en partenariat avec le médecin traitant, l'équipe mobile de soins palliatifs et, si nécessaire, l'intervention de l'hospitalisation à domicile au sein de l'EHPAD.
Ce travail sur les questions de fin de vie doit être mené par les professionnels de santé et les acteurs sociaux pour faire évoluer les mentalités sur la fin de vie. Parler de la mort, de la fin de vie, des soins palliatifs à la télé, avec des reportages et des spots publicitaires, serait la seule façon de faire vraiment évoluer les mentalités. Sur le travail en amont qui doit être fait d'une façon différente, étant entendu qu'il restera inévitable que certains continuent à ne pas vouloir entendre et prendre la mesure du vieillissement de leurs aînés. Il est nécessaire de faire évoluer le dialogue des soignants, que la mort puisse être appelée la mort. Il faut apprendre à accompagner et à laisser mourir via l'enseignement et la formation en médecine. J'explique à mes équipes en EHPAD que parfois, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Cette décision de faire ou non n'est jamais prise seule, mais suite à une réflexion multidisciplinaire. C'est un acte réfléchi. En tant que médecin coordonnateur en EHPAD, je fais le raisonnement que parfois, la vie à tout prix nous mène dans une impasse.
Alors en Suisse, on parle sur ce thème de l'accompagnement de la mourance. L'enjeu du grand âge, c'est un temps qui est donné pour se préparer à mourir. Nous engageons et aidons la personne âgée à mettre ses affaires en ordre, à faire un bilan de vie, à mener différents deuils. Nous partons du principe que la naissance se prépare et que la mort aussi. Un moyen de parler avec ses proches ou son médecin, c'est par exemple la rédaction des directives anticipées.
Oui, Véronique Erard, donc nous allons revenir sur ces directives anticipées. Pouvez-vous nous expliquer ce que représentent ces directives anticipées? Je pense que nos auditeurs, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ces directives. Comment les rédiger et aussi comment les conserver? Où les conserver?
Alors, les directives anticipées sont issues de la première loi Leonetti qui a été éditée en 2005, qui a été revue en 2016. Donc, qui peut les rédiger? C'est toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus des traitements ou d'actes médicaux. Elles sont rédigées, alors il n'existe... Comment les rédiger? On peut les faire sur du papier libre, on peut trouver des formulaires sur Internet, sur le site Amélie. Lorsqu'on est hospitalisé, on va vous donner des formulaires à remplir. Une fois qu'elles sont rédigées, il n'existe pas de limitation de durée dans la validité des directives anticipées. Dans la première loi Leonetti, elles avaient une durée de 3 ans. Maintenant, elles ont une durée illimitée et vous pouvez toujours les révoquer à tout instant. Comment vous allez les conserver? Alors déjà, vous allez les conserver en informant vos proches, en confiant une copie à votre personne de confiance. On reviendra après sur ce sujet. Ça peut être conservé dans votre dossier médical chez votre médecin traitant. Alors dans les faits, ils ne sont pas toujours très favorables à conserver des directives anticipées. Dans votre dossier médical, si vous êtes hospitalisé, si vous êtes en maison de retraite, nous conservons les directives anticipées de nos résidents. Il est discuté de faire un registre national pour les directives anticipées. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Ce qui est important à retenir, c'est que les directives anticipées, elles doivent contenir ce qui va remplacer votre parole si celle-ci devenait impossible. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'avec la nouvelle loi Claeys-Leonetti, elle s'impose désormais au médecin. Le médecin doit en tenir compte.
Voilà, donc tout ça, c'est très important, c'est quand même nouveau. Même si ça existe déjà depuis un moment, je pense que nos auditeurs ont bien besoin de découvrir tout cela. Et donc, je rappelle d'ailleurs que nous sommes en compagnie ce matin de Véronique Erard, directrice de l'EHPAD Corian, les Rives, les Stérelles à Fréjus, qui est accompagnée aujourd'hui du docteur Stéphanie Elbès, qui est médecin urgentiste au CHU de Fréjus et actuellement médecin coordonnateur en EHPAD. Alors justement, la personne de confiance, les gens, vous disiez Véronique, les personnes autour de nous actuellement font l'amalgame avec la personne que l'on doit prévenir en cœur d'urgence. Ce n'est pas du tout ça la personne de confiance. Dites-nous en plus à ce sujet.
Alors, la personne de confiance, elle vous accompagne dans vos démarches et vous assiste dans vos décisions. Son témoignage va prévaloir sur les membres de la famille. Donc la personne de confiance, elle va être désignée dans les directives anticipées. Elle s'engage moralement à exprimer vos propres souhaits et convictions si vous ne pouvez plus le faire. En dehors de celles concernant votre santé, elle n'exerce aucune autre mission à votre égard. Donc la personne de confiance, c'est vraiment une personne qu'on ira consulter si vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez pour vous et que vous êtes par exemple inconscient à l'hôpital. Alors comment vous allez la désigner ? Ça va se faire par écrit. Et ce qui est primordial, c'est que la personne de confiance ait donné son accord et qu'elle co-signe cette désignation de personne de confiance. Il doit y avoir sa signature. Ça peut s'effectuer sur papier libre, ça peut s'effectuer sur les formulaires, pareil, que vous recevez à l'hôpital, sur le formulaire Amélie, sur le site de la Haute Autorité de Santé. Sans révocation, la personne de confiance a une durée illimitée dans le temps. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la personne de confiance, c'est pas forcément, on la confond souvent avec la personne, ce que disait Madame Reiss, on la confond souvent avec la personne à prévenir ou la personne qui va nous acheter du dentifrice quand on est à l'hôpital. C'est pas ça, c'est vraiment la personne de confiance, c'est vraiment celle qui va remplacer votre parole quand vous êtes hospitalisé.
Oui, donc c'est une grande responsabilité aussi. Donc, ces notions de directives anticipées et personnes de confiance ont été renforcées par la nouvelle loi Leonetti de février 2016, donc tout récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire, Véronique Erard, quels en sont les réels changements ?
Alors, les directives anticipées et la personne de confiance datent de la première loi Leonetti de 2005. La nouveauté en 2016, c'est que désormais, les directives anticipées, elles s'imposent sous certaines conditions aux médecins. Alors, les conditions, c'est qu'il ne faut pas que ce soit totalement irrationnel. Mais le médecin est obligé d'en tenir compte, alors que dans la première loi, elles avaient plus un rôle consultatif. L'autre nouveauté dans la nouvelle de la loi Leonetti fait suite aux nombreux débats qu'il y a eu sur les questions de fin de vie et notamment sur le droit à l'euthanasie. En France, c'est la notion de sédation palliative qui a été retenue dans cette nouvelle loi.
Oui, alors là encore un point sur lequel nous devons nous arrêter, parce que je sais que c'est une question que se posent les auditeurs, la différence entre la sédation palliative, l'euthanasie ou le suicide assisté.
Alors en Belgique, c'est l'euthanasie qui consiste à pratiquer une action ou une omission mettant intentionnellement fin à la vie d'une personne pour la délivrer de ses souffrances. L'action euthanasique, ça consiste en l'administration par voie orale ou intraveineuse d'une substance qui va provoquer la mort. Le suicide assisté, ça se distingue de l'euthanasie, alors c'est ce qui se fait en Suisse, dans le fait que c'est le patient lui-même qui pose le geste, que ce soit en libérant une substance administrée par voie intraveineuse ou en ingurgitant le produit létal. Il n'y a pas d'action, on met simplement le produit à sa disposition.
Alors que la sédation longue et prolongée est une mesure prise dans le cadre de soins palliatifs. On parle ici de sédation palliative. Le but est de prendre en charge les douleurs physiques et morales. En augmentant la posologie des médicaments en fonction de l'intensité des symptômes, le patient, les proches et le médecin doivent accepter la possibilité d'un double effet avec une sédation palliative qui peut avoir comme corollaire d'abréger la vie. Cette politique de fin de vie nécessite l'adhésion de tous les intervenants, patients, soignants, proches, afin d'éviter toute ambiguïté dans le discours qui pourrait perturber la sérénité de la personne en fin de vie.
Merci, docteur Elbès, pour ces précisions. Je me tourne à nouveau vers Madame Erard. Donc, en tant que directrice de l'établissement Corian-Rive d'Estérel de Fréjus, quelle est la position de votre groupe sur l'accompagnement de la fin de vie, justement ?
Alors, dans l'établissement Corian-les-Rives d'Estérel que je dirige, il existe depuis plusieurs années une volonté d'accompagner chaque résident sur place jusqu'au bout de la vie. On va, dans tous les cas, éviter les hospitalisations en fin de vie. Alors, cette démarche, elle est rendue possible parce qu'on a des partenariats avec l'hospitalisation à domicile. On a fait une émission le 3 octobre avec Anne-Catherine Rigaud, avec le réseau de soins palliatifs Ferrevesa. On a aussi la chance de pouvoir le faire parce qu'on a une infirmière qui est présente 24 heures sur 24, donc qui va prendre en charge la nuit nos résidents, ce qui n'est pas le cas de tous les EHPAD. Concernant le groupe Corian, Didier Hermingot, qui est directeur médical, éthique et qualité du groupe Corian, est le promoteur de l'approche Positive Care de Corian. Il est l'auteur d'un ouvrage, Tant de choses à vivre ensemble, accompagner nos aînés par le projet personnalisé, aux éditions du Cherche Midi. Alors il explique que être Positive Care, c'est permettre à la personne d'être accompagnée et de s'accomplir jusqu'à la fin de sa vie, selon les volontés et de respecter son souvenir. Le positive care qui est appliqué chez Corian, c'est une posture, un état d'esprit qui se traduit en comportement et en pratique. C'est reconnaître en chacune des personnes que nous soignons et accompagnons toutes ses richesses et compétences, tant physiques, cognitives, culturelles, sociales et émotionnelles. Notre engagement dépasse le simple fait de répondre qualitativement aux besoins liés à l'état de santé et d'autonomie physique. C'est de tout mettre en œuvre pour aider la personne à faire seule tout au long de sa vie, en accord avec sa qualité de vie et ses souhaits. Dans ce cadre-là, nos soignants sont formés à la méthode Montessori. C'est dans ce même esprit que nous, réservons à l'entourage familial et amical de la personne la place qui lui revient. Être positive care, c'est simplement prendre soin de l'autre dans le respect de ses choix, de sa dignité et de son désir d'intimité.
Oui, c'est un vaste domaine. Je pense qu'on y reviendra. En fin d'émission, d'ailleurs, j'expliquerai à nos auditeurs comment ils peuvent retrouver cette émission d'aujourd'hui. Alors, docteur Elbez, suite à ce qui vient d'être dit, quelles sont vos préconisations sur cet accompagnement de fin de vie en EHPAD ?
L'EHPAD constitue souvent, pour un résident, sa dernière demeure. Donc, il est important de pouvoir préparer son décès avec sérénité. Les objectifs sont dans les dernières semaines de respecter sa volonté, sa dignité, son intimité et son confort. Je rappelle l'importance de diffuser ces notions aux équipes soignantes et aux proches du résident afin de comprendre le concept de non-malfaisance. Accompagner la mourance, c'est entourer le résident de confort, de visage connu et lui garantir l'absence de souffrance physique ou morale.
Chers amis, nous avec FM, donc aujourd'hui, nous étions en présence de Véronique Erard, directrice de l'EHPAD Corian, les Rives des Cérelles à Fréjus. Elle était accompagnée aujourd'hui du docteur Stéphanie Elbez, qui est médecin urgentiste au CHI de Fréjus, médecin coordonnateur en EHPAD et somaticien au service de psychiatrie au CHI de Fréjus. Donc je vous engage à réécouter en podcast cette émission qui est quand même très riche, très dense. Donc vous pouvez le faire sur votre ordinateur par exemple en tapant Mosaïque FM Fréjus et en cliquant sur l'onglet réécouter et vous pourrez ainsi avoir accès à l'émission échange du 1er novembre 2017. Merci à nos participants, docteur Stéphanie Elbez et Véronique Erard.
Merci.